VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 27 août 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Mali, les mouvements de la plateforme se retirent d'année fils.
En République démocratique du Congo, l'émissaire spécial des États-Unis appelle à l'organisation des élections et dans le respect de la Constitution et les délais prévus.
Le nouveau chef de la mission de l'ONU en Centrafrique, Parfait Onanga Anyanga, a affiché mercredi sa fermeté pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés qui poursuivent leur violence dans le pays.
Le président Salva Kiir a finalement signé hier l'accord mettant fin à 20 mois de guerre civile au Soudan du Sud, tout en exprimant de sérieuses réserves.
Ici aux États-Unis, nouvel appel de la Maison-Blanche au Congrès pour mieux contrôler la vente et l'utilisation des armes à feu après le meurtre hier en direct de deux journalistes de télévision.
Quelques-uns des titres que nous allons développer et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Au Mali, les mouvements de la plateforme aux coalitions de groupes pro-Bamako se retirent d'année fils, mais souhaitent que les forces internationales qui seront déployées soient accompagnées par les soldats maliens pour des raisons de sécurité. Le gouvernement malien, qui était en conseil des ministres, a pris bonne note de cette décision, alors que le patron de la MINUSMA était en déplacement en Algérie pour aborder la même question. Nous dit de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
La plateforme a décidé de se retirer d'année fils. Toutefois, elle estime nécessaire, pour des raisons de sécurité des populations, de voir les FAMA accompagner les forces internationales qui y seront déployées sans délai. En déplacement en Algérie, le chef de la MINUSMA a rencontré le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de ces pays. Les discussions ont porté sur une nécessité de poursuivre les efforts afin de parvenir à la concrétisation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En tout cas, la question d'année fils a été examinée par le gouvernement lors de sa session du Conseil des ministres de ce mercredi. Choguel Kokala Maïga, ministre porte-parole du gouvernement malien.
Le président de la République a conseillé au gouvernement de garder la sérénité, d'être engagé et d'être déterminé. Donc, sérénité, engagement, détermination.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, 8 personnes d'une même famille ont péri mercredi dans l'incendie de leur maison dans la banlieue de Conakry, a appris l'AFP de sources concordantes. Le feu d'origine indéterminée s'est déclaré alors que toute la famille dormait. La police a ouvert une enquête sur les causes de cet incendie. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, qui s'est rendu sur les lieux à la tête d'une délégation gouvernementale, a déploré une tragédie inqualifiable et regretté une urbanisation sauvage de certains quartiers de Conakry, dépourvus de voies d'accès pour les sapeurs-pompiers et secouristes en cas de catastrophe.
Au Burkina Faso, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti du président déchu, Blaise Compaoré, a appelé hier à la désobéissance civile. Il proteste contre une décision interdisant à ses membres d'être candidats aux élections législatives d'octobre. Bagassikoura.
Le CDP demande à ses militants d'entreprendre toute action entrant dans le cadre de la désobéissance civile, a déclaré lors d'une conférence de presse le vice-président du CDP, Achille Tapsoba, la décision mardi du Conseil constitutionnel déclarant inéligible 42 partisans de Compaoré est anticonstitutionnelle, a affirmé M. Tapsoba, sans préciser le mode de manifestation prévu selon l'AFP. Le CDP a qualifié d'arbitraire cette décision des juges constitutionnels, estimant qu'elle prédispose à des affrontements. Si nos militants exclus des élections ne sont pas réintégrés, nous n'allons participer à aucune élection, a-t-il averti. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Cependant, les partis de l'ex-majorité ont toujours la possibilité de remplacer ces personnalités inéligibles par de nouveaux candidats. Ces 42 pro-Compaoré sont visés par une loi votée en avril par l'Assemblée intérimaire, mise en place après la chute de M. Compaoré, qui rend inéligibles les personnes ayant soutenu un changement inconstitutionnel portant atteinte au principe de l'alternance démocratique.
En République démocratique du Congo, les États-Unis ont appelé les autorités à organiser des élections pacifiques et dans le respect de la Constitution. L'émissaire spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Tom Perriello, a rencontré mercredi le président Joseph Kabila et il a dit avoir soulevé avec lui la nécessité d'organiser des élections dans les délais prévus par la Constitution. Monsieur Perriello, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
We've had a very constructive couple of days, including a very important introductory conversation with President Kabila, just concluded on a range of important issues related to the Great Lakes.
Nous avons bien sûr eu deux journées très productives, y compris une rencontre productive avec le président Kabila, avec lequel nous avons eu l'occasion de discuter d'un certain nombre de questions relatives à la situation dans la région des Grands Lacs. Le président Obama parlait longuement et de manière répétitive de la nécessité de respecter le constitutionnalisme et l'état de droit, sachant que ce sont bien sûr des éléments qui sont extrêmement importants pour n'importe quel pays. Et nous avons bien sûr eu un entretien très constructif avec le président Kabila sur la nécessité de respecter le calendrier électoral et je pense que nous aurons des échanges ultérieurs avec les autorités congolaises à ce sujet. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est que les élections législatives et présidentielles dont l'organisation est prévue l'an prochain puissent effectivement avoir lieu. Et les gens ont été très sceptiques à l'égard de la démocratie congolaise par le passé, mais nous pensons qu'il y a bien sûr des raisons de pouvoir être un peu plus optimiste à l'avenir.
L'interprète de l'émissaire spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Tom Perriello, au micro de Top Congo FM. Nous reviendrons sur la conférence de presse de M. Perriello en deuxième partie de cette émission.
Pendant ce temps, à Bangui, le nouveau chef de la MINUSCA, mission de l'ONU en Centrafrique, Parfait Onanga Anyanga, a donné sa première conférence de presse. Il a affiché mercredi sa fermeté afin de mettre hors d'état de nuire les groupes armés qui poursuivent leur violence dans le pays. Le Gabonais Parfait Onanga Anyanga remplace le Sénégalais Babacar Gaye, renvoyé le 12 août par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, après une série d'accusations d'abus sexuels contre des mineurs commis par des casques bleus en Centrafrique. Notre présence est multiforme, nous ne faisons pas que du militaire, nous faisons aussi du politique, du social et nous utilisons la totalité des moyens à notre disposition pour le désarmement, a expliqué le nouveau chef de la MINUSCA.
Nouvelle avancée dans les pourparlers de paix au Soudan du Sud. 9 jours après les rebelles, le président Salva Kiir a signé à son tour hier à Djouba un accord devant mettre fin aux 20 mois de guerre civile dans le pays. Il a tout de même émis de sérieuses réserves, Claire Morin-Gibourg.
Dénonçant des dispositions néfastes dans l'accord, le président Salva Kiir a remis un document de 12 pages à la médiation internationale listant ses réserves. Les autorités sud-soudanaises ont indiqué que la démilitarisation de Djouba ou la large place accordée aux rebelles dans le cadre du partage du pouvoir local dans l'état pétrolier du Haut-Nil leur posait problème. La Maison-Blanche a immédiatement appelé au respect intégral de cet accord, tandis que le Conseil de sécurité des Nations Unies donnait jusqu'à mardi 1er septembre au président soudanais pour lever ses réserves sous peine de sanctions. L'accord de paix prévoit notamment un mécanisme de partage du pouvoir, attribuant notamment un poste de premier vice-président aux rebelles, c'est-à-dire probablement à Riek Machar, que Salva Kiir avait limogé de son poste de vice-président 6 mois avant que n'éclate la guerre civile. Le Soudan du Sud est en guerre depuis décembre 2013, quand des combats ont éclaté au sein de l'armée, minés par les dissensions politico-ethniques, alimentées par la rivalité entre Salva Kiir et Riek Machar à la tête du régime.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les bourses d'Asie ont rebondi aujourd'hui au lendemain du rebond à Wall Street. Apparemment, la Banque centrale des États-Unis pourrait bien ne pas procéder, après tout, à une augmentation des taux d'intérêt. Après 6 séances consécutives de repli causées par les inquiétudes sur la santé de l'économie chinoise, Wall Street a terminé en hausse hier. Les tendances étaient à la hausse également à la bourse de Shanghai, à Tokyo, à Hong Kong, à Séoul et à Sydney, en Australie.
Ici, aux États-Unis, le meurtre en direct de 2 journalistes d'une chaîne de télévision locale en Virginie a fourni à l'administration Obama une nouvelle occasion pour appeler au contrôle des armes à feu. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
C'est un feuilleton connu. Une fusillade a lieu dans une ville américaine. La Maison-Blanche exhorte le Congrès à prendre des mesures pour mieux contrôler la vente et l'utilisation des armes à feu. Ses adversaires, notamment la puissante National Rifle Association, montent au créneau pour défendre le droit au port d'armes conféré par le deuxième amendement de la Déclaration des droits du citoyen. Le temps passe et rien n'est fait. En attendant le prochain épisode. Hier, déplorant la mort tragique de la reporter Alison Parker, 24 ans, et Adam Ward, 27 ans, le porte-parole du président Barack Obama, Josh Earnest, a rappelé le rôle des législateurs qui, dit-il, peuvent prendre des mesures de bon sens pour limiter ce genre de drame beaucoup trop fréquent, indique l'AFP. Pour rappel, les deux jeunes professionnels de la station WDBJ-TV ont été abattus à bout portant par un ancien employé de cette station, Vester Flanagan, alias Bryce Williams, qui plus tard s'est logé une balle dans la tête quand la police l'a confronté près de Washington, D.C. Il est mort quelques heures après à l'hôpital. La fusillade s'est déroulée dans la matinée, non loin de Roanoke, une ville du sud-ouest de la Virginie, à environ 375 km de la capitale fédérale, et a été vue en direct, alors que les deux victimes interviewaient Vicky Gardner, une femme d'affaires de la région. Gardner a reçu une balle dans le dos, mais elle a survécu.
Et maintenant, la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Difficultés du secteur manufacturier et agricole en Afrique du Sud. Ce mardi, le pays de Mandela a enregistré un recul de 1,3% de son PIB dû à la chute des cours des matières premières et le ralentissement en Chine, son premier partenaire économique. Les exportations de fer ont par exemple chuté de 36,9% en mai dernier. La panique ravive le spectre d'une récession dans l'économie la plus industrialisée du continent. Le choc est arrivé bien plus vite que ne le pensait, reconnaît l'économiste Peter Montalto. Ceci constitue un défi majeur pour que le pays retrouve le chemin de la croissance, estime-t-il. Les eaux minérales d'Ulmes, une filiale du groupe familial Olmarcom, prend le contrôle de la société béninoise Eau Technologies Environnement et TIE, spécialisée dans la production d'eau minérale. Le quotidien Les Échos rapporte que la filiale a acheté 55% des actions. Depuis quelque temps, le groupe Olmarcom a multiplié ses investissements en Afrique. Il est notamment présent en Afrique subsaharienne dans des projets immobiliers. Enfin, au Cameroun, le Trésor public a procédé à l'émission par voie d'adjudication de bons du Trésor, assimilable d'un montant de 5 milliards de francs CFA sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC, a dit une source officielle.
À présent, les sports avec Bagassé Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Suite en Tunisie des 16e de finale Afrobasket 2015.
Grosse victoire hier du Sénégal qui a battu l'Ouganda 79 à 48. Le Sénégal a sorti le grand jeu selon notre confrère sénégalais Amdine Sy.
On a vu une équipe du Sénégal extraordinaire qui a survolé cette rencontre face à l'Ouganda, qu'il faut le reconnaître, est un néophyte de cette compétition parce que les Ouandais participent pour la première fois à une compétition de ce niveau. Mais il faut dire que le Sénégal s'est imposé brillamment, 79 à 48, soit 31 points d'écart. Les quatre joueurs cadres de l'équipe nationale du Sénégal ont été à la hauteur. Je veux parler de Gourgui Sidien, qui est le pivot de cette équipe et actuellement meilleur joueur de cette 28e édition de l'Afrobasket. 23 points à son actif, le meilleur scoreur de ce tournoi a été à la hauteur. Il a été bien épaulé par Antoine Mendy qui avait offert la victoire au Sénégal face à l'Angola, a remis ça en marquant 22 points.
Le Cap-Vert a été battu par le Gabon 77 à 67. Le Nigeria a lui écrasé le Mozambique 83 à 47.
Athlétisme mondiaux de Pékin.
Oui, le Sud-Africain Wade Van Niekerk a été sacré champion du monde du 400 mètres en réalisant la meilleure performance mondiale de la saison en 43 secondes 48 centièmes. Le Sud-Africain offre ainsi à son pays la première médaille d'or de son histoire sur la distance en grands championnats mondiaux et Jeux olympiques.
Parlons de la possibilité des JO 2024 à Los Angeles.
Oui, la candidature de Los Angeles à l'organisation des Jeux de 2024 après le retrait de Boston a fait un grand pas en avant avec la publication de son projet qui pourrait permettre aux États-Unis d'accueillir les JO d'été pour la première fois depuis 1996.
Enfin, cyclisme, cinquième étape du Tour d'Espagne.
Oui, l'Australien Caleb Ewan a fait une entrée tonitruante dans le Gotha du sprint mondial ce mercredi en remportant la 5e étape du Tour d'Espagne à Alcalá de Guadaira en Andalousie, où son équipier Juan Esteban Chavez a cédé son maillot rouge au Néerlandais Tom Dumoulin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour avorté de Moussa Dadis Camara dans son pays, parti hier de Ouagadougou pour Conakry. L'avion de l'ancien chef de la junte militaire guinéenne a été interdit d'escale en Côte d'Ivoire et dérouté sur le Ghana voisin. Selon son parti, le Front patriotique pour la démocratie et le développement, il entendait se présenter devant la justice, disculper et déposer son dossier de candidature pour la présidentielle. Pour une réaction, Timothée de Nangmaï a joint l'analyste Oumar Sy Savané à Conakry.
Moi, j'ai plutôt appris qu'il vient pour se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Dadis a quitté Conakry suite à une tentative d'assassinat. Il a été blessé, il est parti se traiter. Après, il est parti à Ouagadougou. On nous disait qu'il était là-bas pour une opération. Loin de Conakry, il a lui-même lancé un message à ses partisans, aux femmes qui ont observé une grève de la faim. J'ai l'extrait du journal Le Diplomate d'hier 25. Citation. Je leur demande, c'est-à-dire les femmes qui ont observé la grève, humblement et respectueusement, à cause de Dieu, de rentrer chacune d'elles dans leur famille sans violence.
Moussa Dadis Camara, c'est une alliance avec le leader de l'opposition guinéenne, Seloud Dalain Diallo. Quel est le poids politique de l'ancien leader de la junte militaire guinéenne?
Moi, je ne saurais mesurer exactement le poids politique de Dadis dans la mesure où il ne s'est jamais soumis à une échéance électorale. Mais il reste entendu qu'il a été chef d'une junte qui a gouverné le pays pendant 2 ans. Il s'est fait des amis. Des gens ont profité avec lui. Ça, il a ce poids-là. Mais poids politique, ça, je saurais le dire dans la mesure où il n'a été soumis à aucune échéance électorale.
Son nom reste lié au massacre de manifestants pacifiques du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Que représente ce dossier pour lui?
Ça s'est passé quand il gérait les affaires, les biens et les services de la Guinée. Il est donc le premier responsable de ce qui s'est passé. Se soumettre à la justice serait peut-être se justifier que ce n'est pas lui qui a donné l'ordre. Je crois que les parents des victimes attendent quelque chose de Dadis, ils attendent quelque chose de l'État de Guinée. Parce qu'on ne peut pas tuer plus de 150 Guinéens pour rien et que cela reste comme si on n'a écrasé que des mouches.
C'était l'analyste Oumar Sy Savané, joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
À l'issue de son séjour en République démocratique du Congo, l'émissaire spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Tom Perriello, a tenu hier, en fin de journée, une conférence de presse à Kinshasa. Il a fait le tour des grands dossiers régionaux et parlé de l'appui des États-Unis à la quête de solutions. Les précisions d'Eddie Isango.
Tom Perriello, qui succède à ses postes, l'ancien sénateur Ross Feingold, en était à sa seconde tournée dans les Grands Lacs. Il a ainsi visité Kinshasa et Goma en RDC, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, avec d'autres escales prévues en Angola et à Genève en Suisse. Mais c'est Perriello dit avoir eu avec le président congolais Joseph Kabila des échanges constructifs sur la situation des réfugiés, les groupes armés, la tenue sans délai des élections en RDC, de même que la situation au Burundi.
United States' deep commitment to the Democratic Republic of the Congo and the Great Lakes.
Et je souhaite réitérer l'engagement des États-Unis de pouvoir travailler avec la RDC afin de pouvoir nous attaquer aux causes principales de la crise, mais aussi bien sûr à d'autres questions. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre grandement de la part du président
de la part de la société civile et d'autres acteurs.
L'émissaire spécial américain pour la région des Grands Lacs a réagi à l'avertissement de la mission onusienne en RDC, selon laquelle, faute de moyens, elle ne sera plus en mesure de poursuivre au-delà de septembre son aide alimentaire à près de 7000 ex-combattants congolais et étrangers cantonnés en RDC.
We've had conversations with MINUSCO and the government about this.
Nous avons eu l'opportunité d'évoquer cette question avec le gouvernement congolais. Et la MINUSCO, nous sommes bien sûr conscients de la condition. Les conditions, bien sûr, difficiles de ces réfugiés, mais je pense qu'il y a une voie qui existe pour le retour de ces réfugiés dans leur pays. Et bien sûr, ça demandera de la bonne foi de la part de tous les acteurs impliqués, y compris les États-Unis. Nous avons été très frustrés, notamment de voir qu'il n'y a pas eu de progrès notable concernant cette question récemment.
Concernant les Burundis, Tom Perriello a parlé de l'échec des efforts internationaux, notamment américains, visant à décourager un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
The United States is deeply concerned about the humanitarian and political crisis in Burundi.
On constate que cette position du président Nkurunziza a créé une grave crise politique et humanitaire, mais j'aimerais réitérer les mots du président Obama qui a dit que quand des leaders veulent s'accrocher au pouvoir, ça crée bien sûr des conséquences très sérieuses, négatives, y compris la déstabilisation du pays, et qui peut aussi avoir un impact négatif sur le développement de cette nation.
Pour ce qui est des rebelles rwandais des FDLR cantonnés en RDC et dont la situation ne connaît aucune évolution, Tom Perriello a promis la poursuite des efforts américains dans la quête d'une solution.
We will continue to use whatever diplomatic pressure we can bring to bear.
La question des FDLR est une question qui a créé beaucoup de problèmes dans la région pendant longtemps et nous voudrons voir des résultats concrets, notamment relativement aux actions militaires qui sont entreprises contre ce groupe armé, mais aussi au rapatriement de ces rebelles dans le cadre du processus de l'étroit. Nous pensons qu'il y a bien sûr la nécessité d'accompagner ce processus et comme je l'ai dit, ça a duré trop longtemps cette région. Nous avons eu l'opportunité de voir comment les actions de l'étroit s'effectuent au Rwanda. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine.
L'émissaire spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Tom Perriello, lors de sa conférence d'hier à Kinshasa, un compte rendu réalisé avec les concours des Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Toujours avec notre station partenaire à Kinshasa, zéro tolérance avec l'exploitation et les abus sexuels dans les rangs de la MONUSCO, c'est le thème de la campagne que mène actuellement Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, Martin Kobler.
Je suis revenu d'un voyage assez étendu pendant 4 jours par rapport à une campagne de sensibilisation contre l'exploitation, l'abus sexuel à Kinshasa, Kisangani, Bunia, Beni, Bukavu et Goma. Parce que vous savez, on avait les incidents en République centrafricaine où des casques bleus ont violé 3 femmes il y a 2 semaines et le secrétaire général a décidé de demander la démission du représentant spécial en République centrafricaine. Je croyais que c'est le temps maintenant aussi de faire la sensibilisation de nos troupes, des policiers et des civils ici. C'est ce qu'on a fait pendant les 4 jours. Un cas est un cas de trop d'exploitation, d'abus sexuels commis par les civils, par les militaires, par les policiers de la MONUSCO ici. On avait en 2009 aussi 50 cas par an. En 2014, nous avons eu 13 cas. Zéro tolérance avec l'exploitation et abus sexuels des civils, policiers et militaires ici.
C'était le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza s'est adressé hier à la nation. Que faut-il retenir de sa communication ? pour une réaction, VO Afrique a joint en France Athanase Karayenga, spécialiste de la communication politique et de la gouvernance.
Il y a beaucoup de choses pertinentes à retenir, mais de façon globale, le président Nkurunziza, l'ancien président Nkurunziza, je devrais dire, puisque son mandat se termine aujourd'hui, il a une capacité absolument inouïe, inimaginable, d'amnésie, d'oubli. Il oublie toutes les promesses qu'il avait faites il y a 6 ans, il y a 5 ans, il y a une semaine. Des promesses de sécurité, de paix, de démocratie. Il oublie ses engagements, les serments qu'il a prêtés en 2005, en 2010. Il oublie que tout récemment, il y a eu des centaines de morts tuées, assassinées par la police. Des milliers de personnes qui sont parties en exil. Lui, il prétend qu'ils ont fui la rumeur. De gens blessés, torturés, emprisonnés, tous au bilan, il ne l'assume pas. Il ne veut pas rendre des comptes. C'est absolument stupéfiant. Et il promet des chemins de fer aujourd'hui, il promet des barrages hydroélectriques, il promet même un aéroport international de Bouguendana qu'il avait promis il y a 10 ans.
Dans ce discours, le président Nkurunziza, il interdit à l'Église catholique de faire de la politique.
Mais oui, mais c'est ça qui est pathétique, parce qu'il interdit aux confessions religieuses de se mêler de politique. Mais à ce que je sache, les évêques, les prêtres, les chrétiens burundais, les musulmans, les imams, les chers, tous les pasteurs protestants et toutes les religions réunies, c'est d'abord des citoyens, c'est des citoyennes, et qui, à ce titre, ont le droit absolu de se mêler de politique, ce qui est tout à fait paradoxal. Lui, il se roule par terre, il invoque des dieux, il mélange religion et politique constamment, et par contre, les autres n'auraient pas le droit. Eh bien non.
Le président Nkurunziza, dans le même discours, il promet aux partis politiques de fonctionner normalement.
C'est lui qui a détruit toutes les formations politiques. Et maintenant, il dit les partis politiques, il faut qu'ils fonctionnent normalement. Et comment? Après avoir tant fragilisé, après avoir miakourisé, comme on a dit dans le vocabulaire politique burundais, on n'a plus de partis politiques. Même les députés ou les sénateurs qui sont élus sur le ticket de son parti, ce ne sont pas des hommes ou des femmes politiques, ce sont des fonctionnaires. Ce sont des gens qui nomment. Le Parlement n'exerce pas sa fonction habituelle de contrôle de l'action du gouvernement.
Athanase Karayenga, spécialiste de la communication politique et de la gouvernance, joint en France par Eric Manirakiza.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En Syrie, le groupe État islamique qui contrôle la ville de Palmyre depuis mai dernier continue la destruction des sites antiques. Pour le chercheur spécialiste de la Syrie, Thomas Pierret, il s'agit avant tout pour le groupe État islamique d'une stratégie de communication.
C'est un choc, non, c'est beaucoup de tristesse, comme toujours, quand on détruit le patrimoine extrêmement riche d'un pays comme la Syrie. Ceci dit, je pense que ça doit aussi laisser place à une analyse un peu froide de la situation, qui est qu'on est dans une stratégie qui est vraiment purement médiatique de la part de l'État islamique, qui est là simplement la continuation de ces mises en scène macabres, hein, d'exécutions diverses par le feu, par la noyade, etc. On est dans une surenchère où l'État islamique sent bien que ça fait un petit temps maintenant qu'ils ont pratiqué les vidéos d'exécution, que il y a une lassitude, donc il faut faire de la surenchère. Et ils savent évidemment qu'une chose qui provoque énormément d'émotions en Occident, bien sûr, c'est le patrimoine, ce qui est aussi un petit peu dérangeant. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression que les destructions de patrimoine vont choquer plus que la tragédie humaine, que les pertes humaines qui se multiplient tous les jours en Syrie. Mais donc voilà, je pense que l'État islamique doit entretenir sa machine médiatique. Elle était un petit peu au ralenti et donc on la relance avec une destruction de patrimoine qui va avoir un écho important en Occident.
Comment vous expliquez ce besoin de stratégie médiatique, comme vous dites, de la part du groupe État islamique ?
C'est un groupe qui a une stratégie et des ambitions globales. Donc on le sait bien, évidemment, avec le recrutement de combattants étrangers, qui est une composante très importante des effectifs et du fonctionnement du mouvement. Également une stratégie d'expansion globale, et avec, on le sait bien, la création de branches dans le Sinaï, en Égypte, au Nigeria, avec Boko Haram. Une stratégie globale comme celle-là, elle implique, un petit peu comme les multinationales qui vendent des produits au niveau global, il faut une publicité qui soit à la hauteur de ses ambitions. c'est ce qui est un besoin que vont pas forcément ressentir, par exemple, des groupes rebelles syriens qui agissent au niveau local et qui vont, voilà, chercher à recruter des combattants dans leur province, plutôt par le bouche à oreille que par une stratégie médiatique. Ici, on est dans une dimension qui est autre, qui est globale, et donc, voilà, il faut une stratégie médiatique qui soit à la hauteur.
Thomas Pierret, maître de conférences en islam contemporain à l'Université d'Édimbourg et spécialiste de la Syrie. Il était joint par Claire Morin-Gibourg. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Et bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.